Tamani, voici nos informations en français.
18h à Tessalit, c'est dans la région de Kidal. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres. À quand la mise en place de l'organe unique de gestion des élections? La question préoccupe fortement la société civile et la classe politique. La coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali invite les autorités de la transition à concrétiser rapidement sa mise en place. La situation à Dinangourou dans le cercle de Koro n'évolue toujours pas. Assiégé depuis plus d'un mois, le collectif des associations des jeunes du pays Dogon appelle l'État à agir face au blocus des groupes armés extrémistes autour du village. Les populations de Kidal, Tessalit et Aguelhok demandent la délocalisation du camp de la MINUSMA à Aguelhok. Ils l'ont fait savoir ce mercredi lors d'une manifestation à la présentation Hamsi Toutouré à la mise en onde de Nouhoum Djiri. Lors de son premier conseil de cabinet, le Premier ministre Choguel Kokala Mayiga a assigné des priorités à son gouvernement. Parmi celles-ci figure la mise en place d'un organe unique et indépendant de gestion des élections. Cette structure a été fortement recommandée par la société civile, mais aussi une partie de la classe politique. La coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali exhorte les autorités de la transition à concrétiser cet engagement. Plus de détails avec Adama Haïdara.
Selon la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali, l'organe unique de gestion pourrait accomplir aussi bien les missions assignées à la délégation générale aux élections qu'à la CENI, entre autres. La COSEM propose que cet organe ne dépasse pas 19 membres. Drissa Traoré, président du COSEM.
Dans cette architecture, la COSEM propose à ce que cet organe soit composé de 6 représentants de partis politiques, 9 représentants des organisations de la société civile. Nous avons aussi pensé aux universités. Qui on peut octroyer, toi, n'est-ce pas, quota.
L'Union pour la République et la démocratie, URD, salue déjà cette volonté du Premier ministre de mettre en place cet organe unique de gestion. Mais pour Abdrahamane Diarra, président de la jeunesse URD, la composition de cet organe doit être définie à l'issue des assises nationales sur la refondation.
La question n'est pas la répartition entre les acteurs. Pour moi, la mise en place de l'organe unique de gestion doit pallier aux insuffisances que l'organisation connue des élections a étalé comme insuffisance. Maintenant, dire qu'il faut donner un quota aux partis politiques, un quota à la société civile, je pense qu'il faut attendre l'issue des assises nationales de la refondation.
Pour le parti Union Ankambulu-Dinyogoma, membre de la coalition des forces patriotiques COFOP, l'organe unique de gestion des élections doit être indépendant. Cela pourrait éviter les tensions après les élections. Mamadou Traoré, président du parti.
Pour nous, les politiques doivent être des observateurs au sein de cet organe-là pour pouvoir mettre fin à la participation et de l'administration et des partis politiques dans la gestion des élections. Nous-mêmes, en son temps, lors du dialogue national inclusif, c'est nous qui avons demandé à ce que les élections soient organisées par un organe unique et indépendant pour que nous puissions mettre fin aux tensions après les élections.
En attendant, le chef de la mission onusienne MINUSMA exhorte la communauté internationale à soutenir le Mali pour la stabilité.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le mandat de 9 ans de Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, a expiré ce mardi 15 juin 2021. Son successeur, le Britannique Karim Khan, prend officiellement ses fonctions ce mercredi dans la salle d'audience de la juridiction internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Du côté malien, que peut-on retenir du plan de l'ancienne ministre gambienne de la justice au parquet de la CPI et quels seront les dossiers que son successeur pourrait éventuellement poursuivre ou reprendre au Mali? Les détails avec Intala Ag Bilal.
Au terme de son mandat de 9 ans, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a poursuivi des djihadistes maliens devant la CPI. Il s'agit de Hassan Ag Abdelaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. sécurité, incluant des actes de viol, d'esclavage sexuel et de destruction des monuments à Tombouctou. Et Ahmed El-Faqih El-Mahdi, condamné en 2016 à 9 ans de prison pour destruction des mausolées d'un site de Tombouctou inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Pour Fatou Ben Souda, ces deux hommes étaient en 2012 l'âme pensante et agissante de la police islamique de Tombouctou pendant l'occupation de la ville par Al-Qaïda au Maghreb islamique et en Saradine. Toutefois, pour des organisations de défense des droits humains et la plateforme des victimes, il reste encore des gros poissons, des groupes terroristes accusés de crimes de guerre et de traitements criminels inhumains et dégradants qui circulent toujours dans la nature. Le juge islamique de l'époque, Hoka Hoka, et d'autres hauts responsables des groupes terroristes n'ont jamais été inquiétés et ni jugés, regrettent de nombreux habitants de la région de Tombouctou.
Je l'annonçais dans les titres, le collectif des associations des jeunes du pays d'Ogon appelle l'État à agir face au blocus des groupes armés extrémistes autour du village de Dinangourou, cercle de Koro. Selon le président du collectif, la population vit l'enfer. En attendant l'appui de l'État et des bonnes volontés, le collectif multiplie les initiatives. Parmi celles-ci, l'organisation des cours de rattrapage pour les élèves en classe d'examen dans plusieurs localités. Écoute Adama Diongo, président du collectif des associations du pays d'Ogon. Il est au micro de Mamadou Samasekou.
Dinangourou est assiégé aujourd'hui par des terroristes. À un moment donné, ils ont tendu la main des négociations et les populations avaient accepté. Donc, ces accords, je crois que dans ces derniers temps, ça n'a pas fonctionné parce que l'État n'a pas voulu abandonner le village. Ces terroristes se sont très énervés. Ils ont dit que la population soutient l'État et l'armée. Donc, il faut leur imposer un embargo. Ça fait aujourd'hui 43 jours que le village sous siège. Aujourd'hui, à Dinangourou, tout manque. Franchement, pour ne pas rester comme ça, chaque membre de notre association cotise aujourd'hui sur son salaire pour que cette initiative de rattrapage de cours ait lieu. Mais franchement, je vous dis, c'est lourd. Le budget, il est jusqu'à 72 millions pour les 628 élèves qui doivent être pris en charge. En tout cas, depuis le lundi, ça a démarré à Bankas. Ils peuvent envoyer des gens vérifier. Les professeurs sont en train de donner des cours à ces enfants à l'école Joseph Yaro.
Les populations de Kidal, Tessalit et Aguelhok ont manifesté ce matin pour demander la délocalisation du camp de la MINUSMA à Aguelhok. Les manifestants accusent les forces onusiennes d'avoir fait des amalgames lors des attaques terroristes contre le camp de la MINUSMA à Aguelhok. Dans la région de Kidal, plus d'une centaine de personnes ont pris part à ce mouvement de contestation. Baye Ag Moussa est l'un des manifestants à Kidal. Il est joint par Oumar Waigalo.
On n'est pas contre la MINUSMA, on est juste contre la cohabitation du camp de la MINUSMA et des populations, parce que c'est une cohabitation pratiquement impossible. À chaque fois qu'il y a une attaque contre la MINUSMA, ceux qui viennent attaquer la MINUSMA ne se soucient pas de la population, la MINUSMA elle-même ne se soucie pas de la population. Les gens qui attaquent, ils rentrent par la rue, ils rentrent dans les maisons des gens. Maintenant, quand ces gens sont repoussés ou quand la MINUSMA fait sa contre-attaque, ils descendent dans la ville. Les bombardements, c'est dans la ville. Les c'est dans la ville. Et c'est la population qui souffre. À chaque fois qu'il y a une attaque, malheureusement, la MINUSMA sort et il y a l'amalgame entre les populations. Parce que quand les contingents tchadiens sortent et rentrent dans la ville, la première personne qu'elle croise, qu'elle soit civile, qu'elle ne soit pas civile, elle la prenne et elle la tue.
La capacité de la station de traitement des eaux usées de Soutuba est de 5000 mètres par jour. L'information a été donnée hier par les responsables de l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali. C'était à l'occasion de l'inauguration du laboratoire d'analyse des eaux usées et la visite du chantier de construction de la station de traitement des boues de vidange. Une station qui pourrait éviter les déversements anarchiques des eaux usées dans la nature, affirment les responsables de l'agence. Les détails avec Mahaman Babakunta.
Pour le directeur général adjoint de l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, cette construction permet non seulement d'améliorer la santé des populations, mais aussi de sauvegarder l'environnement. Il estime que l'agence dispose également des stations de traitement des eaux usées à Bamako et dans certaines localités. Sidi Al-Habib Meiga.
Actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que les spiraux se déversent anarchiquement au niveau de la zone aéroportière. Donc avec la réalisation des stations cette station, nous allons vraiment mettre à l'abri la zone aéroportière.
Pour des spécialistes des questions environnementales, cette initiative est salutaire. Toutefois, ils indiquent qu'une seule station de traitement à Bamako est insuffisante. Sidi Ba, environnementaliste.
J'ai toute force qu'une seule station, surtout dans la zone au niveau du site de l'ANGSM à Sotiba, puisse suffire pour toute la ville. Parce que Bamako, c'est quand même, selon certaines estimations, environ 4 à 5 millions d'habitants.
L'environnementaliste pointe du doigt l'emplacement de la station située en plein cœur de Bamako. Selon lui, les véhicules qui transportent ces bouts de vidange pourraient déverser quelques bouts sur les voies publiques. Et cela pourrait poser un problème de santé publique, ajoute-t-il.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. Deux troupeaux de vaches appartenant aux habitants du village de Herba, à 15 km d'Ansongo, commune de Boura, ont été enlevés le lundi soir par des hommes armés non identifiés sur des motos. Selon les témoins, ils ont menacé les villageois avant d'emporter ces vaches. Par ailleurs, toujours pas des nouvelles des 8 humanitaires de l'ONG Médecins Sans Frontières, enlevés il y a plus d'une semaine. Plus de 276 000 enfants de 0 à 5 ans, soit un taux de 99,19% ont été vaccinés au cours des journées locales de vaccination préventive contre la poliomyélite dans la région de Tombouctou. Ces chiffres ont été donnés hier lors de la journée de restitution organisée par la Direction régionale de la santé. L'objectif de la vaccination était de contribuer à éradiquer la poliomyélite. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute. Dans un instant, la question A. Dix millions d'hectares de terres dégradées seront restaurés au Mali. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable lors des travaux de l'Atelier national de partage et de promotion de l'initiative africaine pour la lutte contre la désertification. Selon les initiateurs, l'objectif est de renforcer la résilience au changement climatique au Sahel et l'Afrique. Cet atelier entre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Quelle est la situation de la désertification au Mali? Comment lutter contre ce phénomène dans les zones non contrôlées par l'État? Élément de réponse avec Dr Modibo Sako, conseiller technique au ministère de l'Environnement et point focal changement climatique. Il répond aux questions de Khalifa Goïta.
Aujourd'hui, la désertification, elle est visible. Le Mali, en tant que pays sahélien, nous subissons de plein fouet la désertification, eu égard à plusieurs facteurs, que ce soit des facteurs naturels. Nous-mêmes, les hommes, de façon anthropique, nous agissons sur nos terres à travers le déboisement. Et c'est pourquoi nous sommes inscrits dans l'initiative africaine. Le Mali a défini ses cibles, et qui consiste aujourd'hui à restaurer 10 millions de terres dégradées au Mali, identifier aussi les terres les plus dégradées en fonction des zones, parce que nous savons que 10 millions d'hectares restaurés ne suffit pas.
Ça veut dire que le gouvernement a des actions pour faire face au phénomène?
Oui, il y a des actions. Vous savez, il y a eu ce projet de programme de gestion des ressources naturelles, changement climatique. Dans ce programme-là, il y avait des actions de gestion durable des terres. Il y avait ce projet qu'on appelait la gestion durable des terres et des eaux, qui vient juste de finir. Donc il y a eu toutes ces expériences. Les expériences apportées sur la gestion durable des terres en matière de lutte contre la désertification ont été testées dans beaucoup de collectivités. Et ces pratiques-là existent, il s'agit tout simplement aujourd'hui de les mettre en œuvre.
Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour lutter contre la désertification dans les zones sans contrôle de l'État?
Ça, c'est un autre problème, parce que l'État met en œuvre sa politique là où c'est possible, là où les gens sont, les populations. Mais là où il n'y a personne, où ce n'est pas possible, selon votre expression, ça nécessite une autre réflexion. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec la collectivité, nous sommes en train de réviser les PDC des collectivités pour qu'ils prennent prennent en compte les changements climatiques. Et c'est dans ce volet changement climatique où il y a des mesures d'adaptation et de résilience. Et donc ce sont ces mesures d'adaptation qui permettent justement à ces collectivités-là d'appliquer les bonnes techniques de gestion durable des terres.
Quel est donc l'impact de la désertification sur la vie de la population, mais aussi les animaux?
Les terres jouent un rôle dans la diversité biologique. Et donc quand ces terres sont dégradées, la faune va subir, parce que la faune dépend de la flore. Et donc quand il n'y a pas de flore, il n'y a pas de faune, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Il faudrait que cet atelier nous puisse dégager les zones les plus dégradées afin que nous lançons très rapidement dans la mise en œuvre de ce programme de restauration des terres, en même temps préserver aussi les terres qui ne sont pas encore totalement dégradées.